France Inter.
Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, une force mobile scolaire qui fait parler.
Proposition de Nicole Belloubet ce matin après le départ du proviseur du lycée Ravel à Paris. Une vingtaine de personnels de l'éducation qui pourraient être envoyés dans certains établissements en cas de crise grave pour notamment assurer la sécurité physique, précise la ministre de l'Éducation. Les détails de ce dispositif dès le début de ce journal.
Et puis on en parle avec Didier Georges, secrétaire national du SNPDEN, principal syndicat des chefs d'établissement, invité de ce journal. Les autres titres, Kevin.
Nous serons en Turquie où les élections municipales ont lieu dimanche et où les retraités semblent s'éloigner du camp du président Erdogan. À Indianapolis où le nageur Léon Marchand chasse les records. Et puis connaissez-vous Benson Boom? C'est l'homme le plus écouté de France en ce moment et Mathieu Culeron nous le présente dans son top musique à la fin de ce journal.
À 18h20, ce sera une semaine en France avec l'historien et politologue Patrick Veil, spécialiste des questions de laïcité, nationalité, citoyenneté. Son dernier livre, publié chez Grasset, s'intitule « Le président est-il devenu fou ?» Petite précision, il ne concerne pas la France. À 19h20, le téléphone sonne sera consacré aux troubles bipolaires à la veille de la journée mondiale qui leur est consacrée.
France Inter. Le week-end prolongé de Pâques qui commence ce soir semble être une pause plus que bienvenue dans l'éducation nationale après une grosse semaine d'agitation. Les fausses menaces d'attentats sur les espaces numériques de travail qui pourrissent la vie des établissements qui doivent parfois évacuer. Et puis surtout la démission du proviseur du lycée Ravel à Paris, menacé de mort sur les réseaux sociaux après une altercation avec une élève de BTS à qui il avait demandé de retirer son voile. D'où cette annonce ce matin. Pour gérer les conflits dans les établissements de la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, la création, je cite, d'une force mobile scolaire. Elle sera mise en place à la rentrée prochaine. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
En sait-on un peu plus ce soir sur ce que c'est la composition, les missions de cette force?
Un tout petit peu plus. On sait qu'elle va être composée d'une vingtaine de personnes, donc environ. Profil éducation nationale plutôt et non force de sécurité. Des personnels très expérimentés, nous dit-on, pour venir en appui des équipes locales dans les établissements lors de crises aiguës. Des crises du type de celle qui a pu survenir au lycée Ravel autour des questions de laïcité, mais pas que. Lorsque des tensions montent aux abord des établissements avec des bagarres répétées par exemple, ou lorsqu'il y a des points de deal. Trois missions, sécurité, apaisement et pédagogie, une force à l'échelon national et non local, déploiement dès la rentrée 2024 avec la possibilité d'intervenir sur le terrain en moins de 48 heures. Côté syndicat enseignant, réaction ce soir pour le moins sceptique de Gwenaëlle Lepay, secrétaire général adjoint du SNES-FSU.
Très clairement, c'est un effet d'annonce. Hein. Après l'annonce hier dans une dimension numérique de bloquer les messageries sur les espaces numériques de travail dans les établissements. On en vient à une dimension plus physique sur l'accompagnement des établissements, mais le terme force est quand même profondément choquant. Dans le milieu de l'enseignement, on n'utilise pas la force contre personne d'ailleurs, et certainement pas contre les jeunes. C'est d'abord du dialogue, des échanges. Il faut plus de personnel à demeure, et le terme justement de force mobile paraît totalement contre-productif.
D'autant que des équipes mobiles de sécurité existent déjà depuis 2009, mais au niveau de chaque rectorat, explique le syndicat, 550 personnes sur l'ensemble du territoire et des équipes finalement pas si mobiles que ça, puisque dans pas mal d'endroits, ces personnels, explique-t-on, sont présents sur des secteurs bien définis, les jeunes les connaissent, ce qui fait toute la différence. En réponse à ces critiques, on souligne côté exécutif ce soir que cette force aura vocation à intervenir, y compris sur le temps long, plusieurs semaines, parfois s'il le faut, plusieurs mois, pour accompagner sur la durée élèves et encadrants.
Les explications de Claire Chaudière, voilà pour le dispositif et pour le scepticisme, on l'a entendu, d'une partie des enseignants. Les chefs d'établissement, eux, comment voient-ils cette force mobile scolaire?
Ah bon, on va leur demander. Bonsoir Didier Georges.
Bonsoir.
Secrétaire national du SNPDEN, le principal syndicat des chefs d'établissement. Alors, comment vous accueillez cette annonce de cette force mobile scolaire nationale?
Alors, nous, toute annonce qui tente à aider les collègues dans l'exercice de leur métier, on la prend positivement, évidemment. Alors, on manque un peu de détails aujourd'hui. Évidemment, il va falloir qu'on en sache plus. On comprend bien l'esprit, mais il ne faut pas que ça vienne en opposition, évidemment, avec les équipes mobiles de sécurité académique. Il y en a une dans chaque académie aujourd'hui. Il y a 33 EMAS. Elles interviennent à peu près dans le registre que la ministre a énoncé ce matin. Néanmoins, on croit supposer, en tout cas c'est ce qui nous paraît le plus logique, c'est que cette fameuse force serait, elle, sur les situations les plus graves. Alors, comme les trois que nous avons vécues sur ces 6 derniers mois, Ivry, Clermont-Ferrand et évidemment le lycée Maurice Ravel, dont je tiens à préciser par rapport à votre reportage que notre collègue n'a pas démissionné et que il est juste mis en retraite ses fonctions de proviseur du lycée Ravel, mais il n'est pas du tout démissionnaire en l'occurrence.
Effectivement. Cette force dont parle Nicole Belloubet, elle sera mise en place, c'est ce qu'elle annonce, à la rentrée 2024. C'est pas un peu loin ?
Oh, je ne sais pas si c'est loin, évidemment. On pourrait imaginer qu'elle soit mise en place dès le retour des congés d'avril, mais vous savez, il faut sans doute, en fonction du cahier des charges qui va être défini dans les jours qui viennent, et je pense qu'on sera associé d'ailleurs à cela, il faut trouver les bonnes personnes, il faut éviter d'aller trop vite dans la sélection des acteurs de cette force, et puis vraiment mettre des profils tout à fait particuliers. J'entends bien la question de l'expérience, et à mon avis, c'est un point fondamental. Il faudra être extrêmement vigilant sur le caractère expérimenté des personnes qui seront recrutées.
Et puis ça nécessitera, vous l'avez sous-entendu, un travail de coordination avec les équipes des établissements concernés. Quand on voit ce qui s'est passé cette semaine, Didier Georges, pour vous, quelle serait la priorité dans l'immédiat ?
Il y a une gestion de la com et des réseaux sociaux qui, évidemment, nous pose beaucoup de problèmes et de plus en plus de problèmes. Et pas seulement par rapport aux incidents à proprement parler, mais il est assez facile d'imaginer que s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, l'affaire du lycée Ravel n'aurait pas pris cette ampleur et on n'en serait sans doute pas là. Donc c'est pour nous la vraie priorité, ce serait d'essayer de réguler les réseaux sociaux, évidemment. Et puis de s'inscrire dans le temps long, de former les enseignants aux questions de laïcité, parce qu'il y en a un certain nombre aujourd'hui qui sont dans les établissements et qui n'y sont pas suffisamment bien formés, malgré un vrai volontarisme de l'État, il n'y a aucun doute sur cette question. De former aussi les contractuels, parce qu'on en a de plus en plus de présents dans les établissements. Et puis d'envisager très très vite une formation à la laïcité, y compris dans les petites sections de maternelle et dans le premier degré, parce que ça nous paraîtrait tout à fait indispensable de le faire rapidement. On sait que tout acte pédagogique, dès qu'il est commencé très précocement et assez tôt dans la scolarité d'un enfant, il s'inscrit beaucoup mieux dans sa pensée et dans ses habitudes.
Une dernière question, Didier Georges. Nicole Belloubet annonce que l'État se portera systématiquement partie civile lorsqu'il y aura une plainte. Là, on sait que dans le cas du lycée Ravel, l'État porte plainte. Ça veut dire qu'on est sorti de ce que certains ont appelé le pas de vague. C'est une bonne chose pour vous ?
Dire qu'il y a encore du pas de vague, c'est un peu malhonnête, parce que depuis l'affaire Samuel Paty, depuis cet horrible assassinat, il y a une vraie prise de conscience qui a été opérée. Alors tout n'est pas parfait, et on sortait de 40 ans de pas de vague, on est aujourd'hui dans une prise de conscience, dans une réaction de l'institution éducation nationale à tous les niveaux, que ce soit au niveau ministériel ou au niveau académique et départemental. On progresse beaucoup sur cette question. S'il y avait un véritable pas de vague, nous ne serions pas en train de discuter de l'affaire Maurice Ravel, elle aurait été éteinte certainement d'une autre manière. C'est plus le cas. Il y a une formation qui est en cours pour les enseignants, même si elle est insuffisante de notre point de vue syndical et qu'elle n'est pas suffisamment vite déployée, mais il n'y a plus cette volonté avant de mettre complètement la poussière sous le tapis, c'est plus vrai. Maintenant, on régule la com, ce qui n'est pas forcément facile aussi. Il faut entendre qu'on ne peut pas tout laisser non plus partir à volo.
Merci. Merci beaucoup Didier Georges, secrétaire national du SNPDEN. Merci d'avoir répondu aux questions de France Inter.
Et l'actualité ce soir, c'est aussi l'adolescent interpellé dans les Hauts-de-Seine hier qui reconnaît en garde à vue les faits qui lui sont reprochés, à savoir la diffusion de menaces d'attentats sur des ENT. Une centaine de menaces lui sont imputées par les enquêteurs à Paris, dans l'ouest de la France et dans les Hauts-de-France. Par ailleurs, on apprend ce soir qu'un lycéen de Bordeaux a été interpellé, soupçonné d'avoir menacé de mort des professeurs et le proviseur d'un lycée professionnel en début de semaine. C'est justement dans ce lycée que Nicole Belloubet était en déplacement ce matin. On y revient dans le journal de 19h. Plusieurs aides sociales revalorisées de 4,6% le 1er avril. Augmentation en raison de l'inflation. Le RSA va passer à 636 euros, soit 28 euros de plus par mois. L'allocation adulte handicapé passe la barre des 1 000 euros par mois. Augmentation aussi de la prime d'activité.
En Ukraine, le courant partiellement coupé dans plusieurs régions.
Des coupures d'urgence décidées par l'opérateur national Ukrenergo après les frappes russes de la nuit dernière qui ont touché 3 centrales thermiques. Moscou, de son côté, revendique en effet cibler particulièrement les infrastructures énergétiques ukrainiennes ainsi que les systèmes de défense anti-aérienne. Bonsoir Eric Biegala.
Bonsoir Kevin.
C'est à coups de drones kamikazes que l'armée russe a attaqué la nuit dernière.
Oui, les bombardements nocturnes de la Russie sont désormais quasi quotidien, mais celui de la nuit dernière était particulièrement important, particulièrement fourni. 99 vecteurs, en majorité des drones kamikazes de type Shahed, ont été lancés sur l'Ukraine. L'armée de l'air ukrainienne annonce en avoir intercepté 84. La douzaine qui sont passées entre les mailles du filet ont visé des infrastructures énergétiques. 3 centrales thermiques ont été gravement endommagées cette nuit. Détaillé ce matin, le fournisseur d'énergie ukrainien Detec, sans donner la localisation de ces installations. Ukrenergo, opérateur de transport d'électricité, qualifier la situation du réseau énergétique d'équilibrée, tout en prévenant que des délestages seraient sans doute nécessaires dans la soirée, au moment où la consommation domestique d'électricité atteint son pic. Ce soir, Ukrenergo s'est dit contraint d'appliquer des programmes de coupure d'urgence dans 3 régions du centre et du sud du pays. Dans le même temps, le premier ministre ukrainien, Denis Shmigal, a argué de, je le cite, « ces attaques barbares contre le système énergétique ukrainien pour demander davantage de systèmes de défense anti-aérienne aux Occidentaux ». Il est vrai que ces systèmes commencent à manquer, même si la défense solaire ukrainienne a tout de même réussi, à ses dires, à intercepter la nuit dernière 85% des missiles et des drones lancés par la Russie.
Et côté russe, merci Eric Biegala. Côté russe, un civil a été tué, 2 autres blessés par un drone ukrainien aujourd'hui qui s'est écrasé dans un immeuble d'habitation de Belgorod. Nous continuerons à nous battre, ce sont les mots aujourd'hui de la famille d'Evan Gershkovitch, le journaliste américain correspondant du Wall Street Journal en Russie, est en prison depuis 1 an jour pour jour, arrêté pour espionnage sans que les autorités russes ne précisent jamais vraiment pour l'instant ce qui lui est reproché. Jamais depuis la chute de l'Union soviétique, un journaliste occidental n'avait été arrêté en Russie. La Russie, qui par ailleurs, on le sait, tente de déstabiliser hors de ses frontières, surtout au moment des élections. Alors ce matin, les équipes de campagne françaises pour les européennes du 9 juin ont été sensibilisées à ces risques d'ingérence, de manipulation numérique. Bonsoir Claire Fauchel.
Bonsoir.
Ça devient une habitude hein, puisque ça avait déjà été le cas lors de la présidentielle de 2022. C'est le secrétariat général de la défense qui dispense cette formation.
En effet, avec autour de la table. Donc ce matin, toutes les équipes de campagne, un PS, un Renaissance, un RN, un écologiste, un LR. Pour Otman Nasrou, le directeur de campagne de François-Xavier Bellamy, cette réunion était plus que nécessaire.
Dans une campagne électorale, il y a des risques évidemment informatiques, de piratage, des risques de détournement de données ou de divulgation de données sensibles, des risques aussi de désinformation qui peuvent viser un candidat. Il y a eu, durant cette réunion, des explications, des exemples, des contacts aussi, des coordonnées qui sont données au des services de l'État pour qu'on puisse évidemment à la fois se prémunir et puis réagir.
Dans cette campagne, on voit notamment de plus en plus de fake news sortir sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le directeur de campagne du Rassemblement National qui le dit, Alexandre Loubet. C'était aussi l'un des enjeux de cette mini-formation.
Beaucoup de faux visuels, beaucoup de caricatures, beaucoup de fausses informations qui visent à tenter de nous discréditer. Donc évidemment, c'est une menace nouvelle, un défi contemporain contre lequel nous sommes obligés de nous mobiliser.
Et puis, il a été aussi question de la Russie. Évidemment, la menace de cyberattaque venue de ce pays inquiète. Mais les risques viennent finalement de partout, estime Igor Zamykaïr, coordinateur du comité exécutif national du Parti communiste.
C'est un acteur assez actif en France sur la manipulation de l'information, mais a priori, toutes les puissances étrangères peuvent intervenir.
En tout cas, les équipes de campagne se disent très vigilantes. Plusieurs d'entre elles indiquent d'ailleurs avoir renforcé la sécurité de leur matériel informatique.
Un dossier signé Claire Fauchel, service politique de France Inter.
Des élections, il y en a en Turquie ce week-end.
Ah oui, dimanche ont lieu les élections municipales cruciales pour le camp de Recep Tayyip Erdogan. Réélu de peu lors de la présidentielle l'an dernier, le président conservateur espère bien reconquérir plusieurs grandes villes perdues lors des municipales de 2019, notamment Istanbul. Et l'un des enjeux de ce scrutin, c'est le vote des retraités particulièrement courtisés et plus forcément acquis au camp présidentiel, Marie-Pierre Véraud.
À Kadıköy, sur la rive asiatique du Bosphore, des retraités profitent du soleil. Au cœur des conversations, les pensions que le gouvernement n'a pas augmentées malgré ses promesses.
Avant, on venait à Kadıköy, on buvait notre raki ou notre bière, on mangeait notre poisson 2 fois par semaine. Maintenant, c'est impossible.
Ça fait 2 ans qu'il ne m'avait pas fait de cadeau. Et aujourd'hui, regardez, il vient de m'offrir ce châle. Et je l'en remercie. C'est le premier cadeau en 2 ans.
Beaucoup survivent avec une retraite plus faible que le seuil de la faim. Dans un pays où l'on respecte les anciens, le choc est rude, explique Mustapha Dourna du syndicat des retraités.
Le pouvoir n'arrive pas à écarter ce sujet de l'agenda. Cela fait 1 mois qu'on ne parle que de cela. Il n'arrive pas à remplacer les retraites par un autre sujet. Et en plus, et ça c'est nouveau, des retraités de l'armée et de la police viennent rejoindre nos manifestations.
Pour Mustapha, les difficultés des retraités vont peser dans le scrutin au-delà de leur nombre. Ils sont 8 millions de plus de 65 ans.
Mais leur voix a un écho plus large, énorme, parce que vous avez les enfants qui voient la situation de leurs parents, qui les prennent en charge et ont à leur tour des difficultés financières. Moi, je connais des membres de l'AKP, ils sont catégoriques, ils ne voteront plus pour le parti au pouvoir. Ils se maudissent même de l'avoir fait.
Tous les partis ont mis les retraités au cœur de leur programme. Le président Erdogan vient lui de leur demander encore un peu de patience. Istanbul, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Il y a du monde sur la route. Ce soir, c'est rouge. 10 bisons futés dans le sens des départs en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Demain, c'est vert. Et lundi, en toute logique, c'est dans le sens des retours de ce week-end de Pâques que ce sera rouge dans tout le quart nord-ouest de la France.
Léon Marchand poursuit sa conquête de l'Ouest ce soir.
La superstar française de la natation, de nouveau dans les bassins des championnats universitaires américains qui se déroulent en ce moment à Indianapolis, où vous le suivez, Jérôme Val. Bonsoir, ou plutôt bonjour.
Oui, bonjour, bonsoir.
Parce qu'il est 13h chez vous, Jérôme, la question c'est où s'arrêtera Léon Marchand ? Parce qu'il a déjà battu 2 records, Jérôme, et il peut en faire tomber un nouveau cette nuit ?
Ouais, c'est effectivement la seule question hein, sur toutes les lèvres ici dans les travées de cette piscine d'Indianapolis. Que va encore faire Léon Marchand ce soir dans la finale du 400 yards 4 nages ? On l'a vu ce matin lors des séries, complètement maître de sa course. Il a réalisé le meilleur chrono avec plus de 3 secondes d'avance sur son dauphin. Le 4 nages, hein, vous le savez, c'est l'enchaînement du papillon, du dos, de la brasse et du crawl. C'est sa grande spécialité. On rappelle, il est recordman du monde du 400 mètres 4 nages. Mais ce qui impressionne encore plus Kevin, c'est que le Français sait tout faire. Un premier record en effet battu mercredi sur le 200 yards de crawl, un deuxième hier sur le 500 yards et pourtant, il ne s'est entraîné sur cette distance qu'il y a quelques mois seulement et ce n'est donc sans doute pas fini. Ça devient même une habitude. L'an passé, à ces mêmes finales universitaires, c'était à Minneapolis. Marchand avait battu 3 records en 3 courses et sur toute la saison passée, il avait même été invaincu en 26 courses. C'est juste dingue. Palmarès déjà très étoffé qui devrait encore s'enrichir d'ici demain soir. Depuis son installation à Tempe en Arizona il y a 2 ans et demi, Léon Marchand a glané 6 titres universitaires, une moisson pleine de promesses pour l'avenir et pour cet été.
Et on compte sur vous pour nous raconter tout ça évidemment ce week-end. Jérôme Val, envoyé spécial de France Inter à Indianapolis. La 27e journée de Ligue 1 de football démarre avec l'accent ch'ti. Ce soir, derby du Nord au stade Pierre-Mauroy de Lille qui accueille le RC Lens avec la Ligue des Champions en ligne de mire puisque les Lillois sont 4e au classement. Les Lensois 6e, coup d'envoi à 21h. Enfin, la bande son du jour, c'est évidemment Beyoncé. Son nouvel album aux accents country, Cowboy Carter, est à la une partout. On en a parlé sur Inter. Mais Queen Bee n'est pas encore en tête des morceaux les plus écoutés. Il faut lui laisser un petit peu de temps. En attendant, bonsoir Mathieu Culeron.
Bonsoir.
On écoute justement avec vous, comme chaque vendredi, ce qui cartonne le plus sur les plateformes. Et en France, on trouve un titre qui illustre une nouvelle fois la puissance des réseaux sociaux.
Oui, le pouvoir de prescription de TikTok, en particulier auprès des jeunes, ne cesse d'augmenter, un effet que l'on constate dans le top single cette semaine en France avec la première place de Benson Boom qui a commencé sa carrière en 2021 sur le réseau social chinois. Il s'est aussi fait remarquer dans l'émission de télé American Idol et à 21 ans, le voici tout en haut du classement français avec cette chanson Beautiful Things. For a while there it was rough, but lately I've been doing better
than the last 4 cold Decembers I recall. Benson Boom, numéro 1 du top single en France, donc, et il prend la place d'un autre jeune chanteur français, celui-ci, Mathieu, issu d'une émission de télé-réalité.
Oui, c'est Pierre Garnier, 21 ans, Pierre qui a remporté la 11e édition de la Star Academy cette année et qui a choisi de reprendre un morceau du rappeur Dadju, Ce qu'on était, effet immédiat. Il est devenu numéro 1 et reste tout en haut du classement cette semaine. Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi. Mais t'es prête à partir et tout est rangé déjà.
Voilà Pierre Garnier et la Starac qui marche donc toujours plus de 20 ans après la première édition. Merci Mathieu Culeron, spécialiste musique de France Inter.
Merci pour cette petite balade musicale, Kevin Dufraîche.
Avec plaisir.
On vous souhaite un bon week-end de Pâques.
Ben oui, à vous aussi.
Un peu arrosé, on va voir ça.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Le week-end sera agité.
Et oui, des pluies ce soir et cette nuit du sud-ouest au nord de la Seine, de la neige sur les Pyrénées, du vent encore assez fort des Pyrénées aux Alpes, un cran en dessous quand même qu'aujourd'hui. La vigilance orange vient d'être levée sur le Rhône et sur la Loire. Demain, ce sera pluvieux du nord de la Seine vers le massif central et le sud-est le matin, puis du nord-est vers l'Auvergne, les Alpes et la Provence. Les pluies seront parfois orageuses dans la partie sud. Il neigera sur les Alpes vers 1900 mètres. Attention aux avalanches. Et puis plus à l'ouest, un ciel plus changeant avec des éclaircies, quelques ondées. Ça deviendra orageux sur la Bretagne et l'Aquitaine l'après-midi.
Un petit mot des températures ?
Souvent 3 à 10 degrés attendus le matin. L'après-midi, 12 degrés à Lille, 14 à Paris et Angers, 17 à Lyon et à Bordeaux, 18 à Strasbourg, 19 à Perpignan ou à Bastia. Un petit mot pour dimanche, ce sera encore perturbé, des passages pluvieux, parfois orageux, et des pluies particulièrement marquées entre les Cévennes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Et dire qu'on passe à l'heure d'été ce week-end. Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France.